document de... Il a fait des études d'artilleur à Brienne-le-Château. Et il était officier d'artillerie déjà à l'âge de 16 ans. Il a eu une carrière relativement fulgurante, puisqu'il a pu faire ses preuves très tôt, quand il a supplanté un général qui avait en charge le siège de Toulon, mais qui était plutôt un général d'opérette, qui n'avait pas vraiment... Il avait réussi à être général essentiellement grâce à ses accointances politiques et en fin de compte ses capacités d'artilleur, ses capacités de décision ont fait qu'il a réussi à notamment en changeant de place les canons, en réglant le tir des canons, il a réussi à faire que les Anglais ont dû évacuer Toulon. Parce qu'il les a, il les menaçait avec ses canons. Napoléon avait aussi comme relation, et grâce à ses relations, il a réussi effectivement, suite à ce siège de Toulon, il avait comme relation Robespierre le Jeune, donc le frère de Robespierre, et c'est grâce à ses relations parisiennes de l'époque qu'il a pu réussir à se faire nommer. Général, non seulement général d'artillerie, mais par après, général commandant en chef de l'armée d'Italie. Il a été pendant une période, pendant disons entre 16 et 20, 23 ans, il a été, il a vécu à Paris sans solde, sans commandement. Il était avre, dépenaillé, mal nourri. Au point qu'il a connu sa future épouse, en fin de compte, il l'a sollicité à un moment donné pour qu'elle lui fournisse du drap, parce que son pantalon était troué et usé. Donc il était sans solde, il est resté sans solde pendant pas mal de temps, il avait juste la possibilité de faire un repas par jour. Qui plus est, il avait en charge un de ses jeunes frères, qu'il devait subvenir à ses besoins. Donc, s'il n'avait été servi par son étoile, il serait effectivement resté probablement sans fortune. Et peut-être même serait-il mort, puisqu'il était quand même, il faisait assez peu de cas. On l'a accusé d'avoir fait assez peu de cas de la vie des autres, mais il faisait aussi assez peu de cas de sa propre vie, puisque bon, il était quand même assez inconscient face au danger. Je veux dire, bon, il n'hésitait pas à prendre des risques. Il a suscité pas mal de haine pendant son existence, mais aussi beaucoup de dévouement. Bon, c'est vrai certains le considèrent un peu comme un boucher, puisqu'il a quand même il y a des centaines de milliers d'hommes qui ont péri, dans les affrontements successifs qu'il a pu avoir en Europe contre les Autrichiens, les Anglais, les Russes, enfin bon. Mais en même temps, bon, il a suscité des dévouements assez remarquables. Notamment au pont d'Arcole, par exemple, un de ses subordonnés, le colonel Muiron, qui avait à peu près son âge, ou il avait peut-être 2 ans de différence, s'est jeté devant la mitraille pour le protéger de son corps, et bon, il en est mort. D'ailleurs, la frégate qui a ramené Napoléon de la campagne d'Égypte avait été baptisée du nom de ce colonel, elle s'appelait le Muiron. Disons que le destin de Napoléon a justement basculé lors de cette campagne d'Égypte, puisqu'à un moment donné, après qu'il ait eu des succès assez foudroyants en Italie, il a commencé à faire de l'ombre au directoire, il commençait à prendre des décisions sans forcément demander l'aval des directeurs. Donc ceux-ci ont fortement applaudi à son projet de partir en Orient, en Égypte notamment, pour y créer en quelque sorte une tête de pont en attaquant les colonies anglaises et en coupant la route des Indes aux Anglais, puisque les Anglais à l'époque avaient déjà un empire conséquent. Et Napoléon envisageait essentiellement la campagne d'Égypte comme une campagne qui allait effectivement titiller un peu l'Angleterre. Donc le génie de Napoléon, c'est aussi d'avoir su en quelque sorte communiquer. C'était un des premiers communicants de l'époque, puisque bon, il a toujours su se mettre en avant et se mettre en valeur, même si la campagne d'Égypte a été un désastre militaire, puisque une partie de la flotte a été perdue, a été coulée par les Anglais lors du désastre d'Aboukir. Napoléon, par ses discours enflammés, les discours enflammés qu'on lui prête et qu'il a tenu réellement, je veux dire, bon, quand il a parlé à ses soldats devant les pyramides, mais aussi le fait qu'il se soit fait accompagner de nombreux savants qui ont fait des relevés, qui ont découvert des plantes nouvelles, qui ont même envisagé à un moment donné de creuser le fameux canal de Suez, qui ne sera creusé que vers 1870, qu'avant 1870, vers 1867, je crois. Il a toujours su, en fin de compte, être un propagandiste très, très habile, puisque même ultérieurement, lorsqu'il a créé le journal de la Grande Armée, il a su, en fin de compte, créer sa propre légende, et en fin de compte, par ce fait, il a suscité des adhésions assez nombreuses. Même si, vers la fin de l'Empire, les Français commençaient à rechigner, à lui donner des... à la levée des conscrits, en fin de compte. Oui. Parce que la conscription était effectivement a fait que de nombreuses familles françaises ont perdu leur fils, enfin, qui devait effectivement s'engager de gré ou de force dans les armées de Napoléon. J'arrête, non, c'est fini.
C'est pas qui c'est encore raconté, Joséphine.
Oui.
Après le bras.
Que pourrais-je dire de Joséphine?
Elle était déjà mariée, hein, mais je sais pas.
Joséphine n'était pas mariée. Joséphine, c'est une veuve. Elle est morte. Elle est morte, je crois. Elle est devenue veuve, en fin de compte, parce que son mari, le général de Beauharnais, a été guillotiné pendant les journées de la terreur. Donc elle a échappé elle-même de très peu à la guillotine. Donc Robespierre lui-même ayant été arrêté et ayant été guillotiné assez rapidement, elle a failli d'assez peu suivre son mari, mais elle a été sauvée Alors, bon, ceci dit, c'était une royaliste. Elle fréquentait les milieux royalistes. Elle était, à l'époque où Bonaparte l'a connue, elle était la maîtresse de Barras, qui était, en fin de compte, un des leaders de la Révolution. Bonaparte, semble-t-il, s'est enflammé très tôt pour elle. C'était une, femme, semble-t-il, et Napoléon était très amoureux d'elle, bien qu'elle, elle le considéra avec un certain détachement. Bon, même après qu'elle l'ait épousé, bon, elle n'a pas hésité à le tromper régulièrement. Elle le trouvait drôle. Elle le trouvait. Elle venait le voir parfois aux armées avec son amant attitré dans la même voiture. Donc pour Napoléon, effectivement, ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Ce n'est qu'après, quand son entourage l'a informé, qu'il est devenu, notamment quand il est revenu d'Égypte, il a été à deux doigts de rompre avec elle. Il a été à deux doigts de divorcer. Si Joséphine et ses enfants n'avaient pas manœuvré de façon assez serrée pour qu'ils ne divorçaient point, effectivement, c'était pratiquement chose faite, hein, puisque bon, ils ont été à deux doigts à ce moment-là de divorcer. Mais Napoléon, je pense, probablement l'aimait toujours, et bon, il a cédé aux sollicitations d'Hortense de Beauharnais, qui était la fille de Joséphine, donc, et de son frère, qui, en fin de compte, qu'il appréciait énormément. Et bon, il n'y a pas eu de divorce, en fin de compte, il s'est avec elle, en quelque sorte, il a continué avec elle à vivre une vie assez commune. Il divorcera effectivement ultérieurement, mais là, ce sera pour des raisons essentiellement dynastiques. Joséphine sera convaincue que son devoir est de s'effacer de façon à ce que Napoléon puisse avoir une descendance, puisque bon, elle lui avait fait croire pendant un certain nombre d'années que s'il ne pouvait pas avoir d'enfant, c'était peut-être à cause de lui. En réalité,